Chers auditeurs, bonjour. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être accueilli dans une galerie très spécialisée dans la bande dessinée qui s'appelle donc Huberti et Brenne, qui est située à Paris, avenue Matignon. J'ai eu la chance en fait d'être invité à découvrir le travail d'un artiste qui s'appelle Ilan Manouache. Vous êtes un artiste d'origine grecque, vous êtes né en Grèce, et la particularité de votre travail, et évidemment on va converger assez rapidement vers le cinéma, vous êtes intéressé à l'univers des mangas, d'accord, et vous allez nous raconter en fait cette exploration. À la base, vous êtes un chercheur, et de vos explorations scientifiques, aujourd'hui, il y a un tas de déclinaisons artistiques qui peut-être un jour seront aussi des déclinaisons cinématographiques. Ouais. Vous travaillez dans l'univers de l'IA depuis pratiquement une quinzaine d'années, m'avez-vous dit précédemment. Et donc aujourd'hui, on a le privilège de découvrir, alors je ne sais pas si on peut appeler ça des compilations, mais vous allez évidemment nous préciser tout ça. Bonjour Ilan Manouache, bienvenue à la Radio du Cinéma.
Bonjour.
Alors Ilan, vous avez inventé, on va dire ça comme ça, un mode de présentation de l'univers des mangas, je parle des supports physiques, des supports papier. Racontez-nous un peu comment déjà au départ vous avez atterri dans cet univers, quel est le regard porté en fait sur la bande dessinée. Il faut savoir que vous êtes d'origine grecque mais vous vivez aujourd'hui entre le Brésil et la Belgique, la Belgique qui est un, entre guillemets, un bastion de la bande dessinée comme la France, et donc j'imagine que tout ça a une résonance toute particulière pour vous.
La bande dessinée en Belgique est une composante culturelle très importante de l'héritage du pays. Je sens que pour très très longtemps, même en France, c'est la même chose. La bande dessinée a entièrement été explorée en termes d'artisanat, d'expression artistique. Le fait que je n'ai pas été né en Belgique, ni en France, et que je viens de la Grèce, d'un pays où la tradition de bande dessinée est inexistante, fait que j'ai un regard sur le média qui est différent de mes collègues, en fait, qui ont grandi en lisant des bandes dessinées franco-belges. Et donc, j'ai déjà édité une trentaine de livres, en fait, dans une variété d'éditeurs en Europe et aux États-Unis. Et j'ai toujours essayé d'explorer la bande dessinée, pas comme une manière de m'exprimer, de raconter mes imaginations ou de développer mes caractères, mais comme une manière de voir le média sous un autre angle, comme j'ai raconté avant, comme un objet technique, en fait. Donc, et cette exposition aujourd'hui, c'est une continuité, en fait, de cette exploration de la bande dessinée comme un fichier, comme un objet technique.
Finalement, toutes vos histoires, ça court sur plusieurs années, hein, on est bien d'accord. C'est des collections qui ont démarré, alors je pourrais citer comme ça en fait, pour les spécialistes et les puristes, des collections, je pense à Dragon Ball par exemple, Naruto, Détective Conan, Bleach ou Berserk, hein, qui sont les cinq collections qui aujourd'hui en fait font l'objet de ces objets physiques, de ces compressions, de ces compilations. Ça parlera aux spécialistes. Racontez-nous un petit peu comment finalement, physiquement, vous est venue cette idée.
Quand on voit la bande dessinée comme un objet, comme un objet technique, en fait, on a plus d'opérations à notre. On peut faire plus d'opérations que quand on la voit comme un objet artistique. Donc on peut dire, par exemple, un objet physique, un objet technique est quelque chose qui peut être accumulé, qui peut être. On peut faire des opérations comme la compilation, comme la concaténation. La compression, vous avez dit, c'est un super mot, en fait. Donc quand je décide que la bande dessinée pour moi est des fichiers, par exemple, des fichiers numériques. L'idée de les mettre ensemble, de voir qu'est-ce qu'ils représentent, en fait, en masse, comment ils voyagent, comment ils se présentent. Dragon Ball, ça fait 20 ans que ça dure. One Piece, ça fait 25 ans. Quand on met ça dans un volume unique, il y a quelque chose d'autre qui se produit, en fait. On voit la bande dessinée comme presque de géologique, en fait, de sédimentation. Je vais vous raconter une anecdote, là, parce qu'en 2022, ce n'est pas la première fois qu'on fait ça, en 2022, j'ai fait avec mon éditeur à l'époque, on avait fait un One Piece, une série manga très très connue, qui est toujours en production, donc depuis 25 ans. Donc on a pris 23 000 pages de la série, on les a mis sur un même livre, on a fait un coffret.
Oui, ça plante le décor, hein. 23 000 pages sont assemblées. Ouais. Donc en gros, ça fait un livre qui a une largeur, on va dire, d'un mètre cinquante ou un mètre, en
un
fait.
Mètre, hein. Un mètre, oui.
C'est ça. Et donc forcément, on ne croise pas des livres comme ça partout.
Exact.
Voilà, une sorte de sculpture, en quelque sorte.
C'est une sculpture, c'est un objet, c'est une sculpture livre. Et c'est un objet qu'on a présenté dans une foire. Mm-hmm. Le livre a suscité beaucoup d'intérêt,
oui.
A été partagé énormément en ligne. Il a vécu plus sa vie en ligne, parce que, comme je vous l'avais dit, c'est un tirage très limité. Mais il a été partagé des dizaines de milliers de fois par des gens qui peut-être ne l'ont jamais vu en vrai, en fait. Donc il y a très peu de personnes qui ont pu le voir en vrai. Et donc on a fait ça, et puis un des fans, en fait, de la série avait vu le dos du livre. Mm-hmm. Et dans One Piece, dans cette série-là, les caractères, les personnages de la narration, ils font des rêves très souvent. Et on a un code, je ne sais pas comment on fait en cinéma, mais en bande dessinée, pour représenter des rêves, on change la représentation des pages.
Oui.
Donc on met par exemple des pages, au lieu que ce soit le bord blanc, c'est bord noir.
Oui, vous voulez dire le narratif devient différent pour qu'on intègre le fait qu'on sorte de l'histoire.
Exact.
Et qu'on se projette dans quelque chose de différent.
Donc il y avait moyen de lire tous les rêves, de tous les caractères, des derniers 25 ans, juste en voyant les tranches noires. Et ce lecteur en ligne avait dit, il manque un rêve là. Il manque le rêve de telle personne, je ne le trouve pas, parce que je sais exactement quels sont les rêves. Donc, on lit la bande dessinée comme une sédimentation archéologique. Comme quelqu'un va voir les différentes époques sur la sédimentation de minéraux, c'est une œuvre minérale en fait. Et ça m'avait tellement impressionné que les fans eux-mêmes peuvent inventer de nouvelles manières de lire. Qui sont pas toutes linéaires, etc. Mais voilà, quelqu'un avait une telle connaissance de cette œuvre, du média, qui pouvait opérer des mouvements sur la tranche, mais pouvait lire le livre par la tranche. Et ça m'a fait vraiment rêver. Et je voulais continuer en fait le geste d'accumuler des pages au-delà juste du jeu de mots One Piece in One Piece. Et d'essayer de voir ce qu'il va faire avec Dragon Ball, Naruto, etc., avec d'autres séries. Comment c'est... La bande dessinée, en fait, est lue en papier très peu par rapport à ce qui est lu en ligne et par pirate, en fait, par piratage. Donc la bande dessinée, majoritairement, est lue en piratage numérique. Et comment le piratage numérique, comment ces planches se trouvent en ligne, les fans eux-mêmes achètent des bandes dessinées originales en japonais, en chinois, en coréen. Ils désassemblent les pages, ils les scannent, ils les nettoient, ils les traduisent, ils remplacent le texte eux-mêmes et mettent en ligne. Et des fois, ils sont tellement efficaces qu'ils font ça même avant la sortie. Parce qu'ils ont des réseaux dans les éditeurs, comme un leak, comme un Wikileaks. Hein, ils vont prendre des œuvres et ils vont avoir des releases parfois simultanées, avant ou peu après de release officielle. Donc on parle d'une énorme, un énorme monde de labeur qui vient par les fans eux-mêmes. On appelle des scandateurs, donc l'équivalent français aurait été scantrade, scanner, traduire.
Et traduire, ouais. C'est ça. Et ces gens-là, comment, quelle relation vous entretenez avec eux et est-ce qu'ils s'inscrivent dans votre process créatif, clairement?
J'écris des articles en fait, sur le travail, je trouve leur existence, leur positionnement dans l'industrie de BD extrêmement importante.
Extrêmement influente finalement.
Oui, je crois même que je dirais que c'est le moteur en fait, de la distribution en bande dessinée, plus que les éditeurs majeurs, parce qu'ils démocratisent énormément le média. Donc des gens qui ne peuvent pas avoir... lire One Piece ou lire Naruto, vous devez quand même avoir besoin de 3 000 euros pour lire tout. Hein. Donc vous devez acheter tout.
Oui, c'est un budget.
Donc les parents, par exemple, réfléchissent énormément s'ils doivent acheter le tome 1 d'une nouvelle série qui va sortir à leurs enfants, parce que ça, c'est un investissement à long terme, hein, des fois.
On ne le voit pas passer parce que ça s'étale dans la durée,
oui,
mais c'est un investissement quand même.
Ça s'accumule.
Ouais.
Et donc le fait de pouvoir avoir accès à ces releases, à ces chapitres en ligne, je trouve très important. Évidemment, c'est pas la manière la plus légale de faire, mais on sera surpris parce qu'il y a énormément de complicité entre les éditeurs et les pirates, en fait.
Puis ça rend quelque part service un peu à l'éditeur.
Énormément, oui, parce qu'ils savent dans quel degré ils vont prendre un risque, en fait, une fois qu'ils
arrivent à jauger finalement. Voilà. Ça met des graines et en fonction de comment ça prend, ils savent si oui ou non ils doivent explorer ce marché-là.
On appelle ça un gentleman's agreement. C'est comme ça qu'ils l'appellent.
Okay. Et j'avais une question justement qui évidemment s'impose à moi. Est-ce que vous pensez que ce type de pratique peut aussi s'exercer dans le monde du cinéma?
Ah, je fais partie d'une énorme communauté peer-to-peer en cinéma qui s'appelle Karagaga, que peut-être vous connaissez ou vous ne connaissez pas. C'est le plus grand archive de cinéma en ligne maintenant.
Au monde.
Oui, au monde. Je dirais même pas en ligne, peut-être plus grand que voilà, la Filmothèque à Bruxelles. Ils ne font pas juste mettre en ligne des films qu'ils aiment, ils font des sous-titrages même. Donc par exemple, vous pouvez dire, écoutez, je donne autant de crédit à tel utilisateur qui va me traduire ce film en afghan parce que j'ai besoin de le voir, ou en grec. Et il y a des gens à faire ça. Donc c'est une communauté qui est très très
puissante,
communauté privée. Je crois qu'elle consiste de 40 000 personnes partout dans le monde. Et tous les jours, il y a une centaine de films anciens, nouveaux, des outtakes, des choses qu'on ne retrouve pas dans des releases DVD. Et aussi un forum très 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 informé aussi très actif sur le cinéma.
D'accord.
Et moi je fais partie de cette communauté depuis 20 ans. C'est là où j'ai je m'investis énormément. Et donc il y a un cinéma ça, oui, bien sûr.
Oui. Donc clairement en fait ce que vous êtes en train de nous dire, parce que là je m'adresse au chercheur, à l'ingénieur que vous êtes. Aujourd'hui finalement il y a une certaine forme de matérialité et d'exploration en devenir. On parle de bande dessinée, mais on pourrait très bien parler aussi peut-être d'une nouvelle façon de consommer du cinéma. Et ça m'intéresse d'avoir votre point de vue et votre analyse là-dessus, pour savoir comment est-ce que, dans la réflexion qui est celle d'aujourd'hui, mais plutôt orientée vers demain, comment est-ce qu'on va réussir à finalement explorer les œuvres d'art de manière différente ?
Voilà, j'ai l'impression que les grands conglomérats d'édition nous ont déçus. En tant qu'auteur, en tant que lecteur, on est déçus. On trouve qu'il y a un manque d'imagination. On trouve qu'ils ne prennent pas de risques. On trouve qu'ils n'ont pas que de recettes, en fait. Et en tant que lecteur, en tant que spectateur aussi, je ne me sens plus aspiré, en fait, de grosses maisons de production, ni du cinéma, ni dans la bande dessinée des éditeurs. Et ils proposent rien de nouveau. Et je fais plus confiance à la communauté des fans, comme moi, qui vont essayer en fait de trouver d'autres manières à visualiser un film, à le discuter, à le distribuer. Peut-être c'est des manières illégales, pirates, mais ils m'inspirent beaucoup plus en fait. Et ce n'est pas une raison économique. C'est parce que je trouve que le monde de la bande dessinée, c'est de celui que je peux parler avec plus de confiance, traverse une crise de vision, de perspective, de futur. Et je crois qu'en tant qu'auteur, on a donné énormément de nos rêves et nos désirs, on les a confiés à des grands conglomérats d'édition. Et on ne devrait pas faire ça, en fait. On doit trouver des alternatives. Et les alternatives pirates me paraissent beaucoup plus légitimes et même beaucoup plus éthiques. Que les éditeurs majeurs en France, en Belgique maintenant.
D'accord. Ah oui, donc c'est une forme de rébellion quelque part. D'accord. Et du coup, en fait, vous considérez que cette vision-là, elle est un peu une appropriation par les, on va dire, les fondations des fans que représente la communauté des fans, fondation peut-être d'une nouvelle façon de consommer l'art de la bande dessinée, du cinéma, etc.
Donc, j'ai commencé cette pratique avec Maus d'Art Spiegelman, vous connaissez. Donc j'avais écrit à l'époque à Art Spiegelman et j'avais demandé, j'ai dit, c'est une œuvre majeure, c'est un livre très important pour moi, je suis d'origine juive, mais je trouve que le livre a des problèmes. Je trouve que le livre a une manière de représenter les auteurs, les caractères des personnages, avec un code de représentation qui ne donne pas justice à l'histoire, en fait. Parce que quand on décide qu'il y a des souris et des chats, on ne parle pas juste des races différentes, on parle des espèces différentes. Donc quelque chose qui est inassimilable. Et je trouvais que cette représentation est très commune dans le monde dessiné, les souris et les chats, mais que là, c'est une erreur de l'employé. J'avais demandé de me donner la permission de republier le livre entier avec une seule espèce, des chats. Il avait refusé. pour des raisons qui, pour moi, n'étaient pas à la hauteur de l'image que j'avais de lui en tant qu'intellectuel, en tant qu'auteur, en tant qu'artiste. Et j'ai décidé quand même de faire le livre. Le livre est devenu un petit succès. J'ai reçu une lettre de Flammarion qui m'a obligé de détruire le tirage. Donc toute l'histoire est très bien documentée, elle existe en ligne. Mais j'ai compris quelque chose, j'ai compris que on a trop souvent cru que le lecteur est dans une position passive. Mais le lecteur peut dire, ce livre me plaît, mais il y a un problème, et je vais proposer une autre version de ce livre, et je vais le réinjecter dans le marché. Et c'est comme une forme de retaliation, comme on dit en français, une forme de...
Une réappropriation, quelque sorte.
Une réappropriation, oui. Mais dans l'objet lui-même, oui, dans la forme lui-même. Et là, ça, c'est une idée qui m'a guidé jusqu'à présent dans plusieurs projets où, en tant que lecteur, j'étais insatisfait des choses et je voulais proposer d'autres versions de la même histoire, du même corpus, du même livre.
Oui, ça veut dire que dans votre démarche artistique, il y a une vraie dimension éditoriale et en fonction, en fait, de l'intérêt porté ou des éventuelles erreurs que vous pourriez associer finalement à un artiste, vous vous accordez le droit de customiser l'œuvre originale pour la rendre, entre guillemets, plus à votre convenance par rapport à des messages de fond qui vous paraissent plus appropriés. C'est bien ça?
C'est bien ça, oui.
Ah oui, donc c'est finalement, en fait...
C'est pas juste une manière de convenance.
C'est assez militant comme...
C'est militant, oui. Ouais. Je sens que, par exemple, c'est pour révéler aussi des histoires politiques qui sont refoulées aussi dans une œuvre... Tata en Congo, par exemple, une œuvre extrêmement raciste, coloniale. Pourquoi Tata en Congo? Tata en Congo est traduit dans 50 langues. Pourquoi elle n'est pas traduite en lingala, en congolais? On se pose la question, non? Donc ça veut dire que Moulin Sarr ou Tata Imagination, les ayants droit, ne font pas que des gestes commerciaux, en fait. Ils prennent des décisions politiques aussi. Parce que c'est un livre très populaire au Congo, mais donc toujours. Donc on se demande, donc j'ai décidé de le faire moi-même et de voir ce que ça va donner. Et en tant que lecteur, donc, je dis, voilà, je vais combler une lacune de conglomérat, dans l'expansion d'un conglomérat, et je vais essayer de comprendre pourquoi ce livre n'a pas été traduit. On a commissionné une traduction d'un traducteur certifié de l'ONU en Belgique, à Bruxelles, et qui nous a fait une traduction, et puis on l'a réimprimée. Et on l'a réinjecté dans le marché à Kinshasa et à Bruxelles.
Ah oui, donc là, il y a un vrai engagement de votre part par rapport à finalement des dessinateurs emblématiques. Là, vous parlez d'Hergé, évidemment, et les éventuels, entre guillemets, engagements qu'il a pu y avoir, à une certaine période, et que vous avez envie finalement de dénoncer, tout en maintenant l'œuvre originale, mais en la mettant à disposition des gens qui sont principalement concernés.
Oui, je vois ces œuvres comme des chevaux de Troie, en fait. Donc on peut leur infuser un autre message en changeant juste quelques paramètres, en fait. La langue, la représentation animalière dans Katz, etc.
Je vais rappeler donc le nom de cette exposition. Donc, alors là, pour le coup, ça s'appelle œuvre complète, puisque vous présentez donc les 5 collections dans cette galerie qui s'appelle donc Huberti et Brenne, qui est située donc au 36 avenue Matignon à Paris. Cette exposition court jusqu'au 21 mars. Vous pouvez venir voir et admirer des œuvres à part entière, des œuvres qui sont des œuvres originales, et à n'en pas douter, les investisseurs potentiels de ce genre d'œuvres, dans les 5 ou 10 ans qui arrivent, auront capitalisé très fortement sur l'objet en tant que tel, puisque ce sont des tirages très très limités. On comprend bien que dans la démarche qui est la vôtre, d'une démarche spécifiquement scientifique au départ, en découle un certain nombre de réflexions artistiques, mais au-delà de ça aussi, j'ai envie d'y associer un raisonnement politique. Et qu'est-ce que ça dit de vous, tout ça, finalement?
Si j'étais confortable en tant qu'auteur de bande dessinée, peut-être j'aurais pas fait ça. Si j'étais confortable en tant que juste chercheur, j'aurais pas été chercher autre part. Donc je crois que je suis dans une insatisfaction, en fait. J'ai envie de trouver des stimulations là où elles se présentent. Et si des fois il faut faire de la recherche pour comprendre mieux quelque chose, on va faire de la recherche. S'il faut faire... Voilà, s'il faut être artiste, à un moment il faut être artiste. Je me sens pas limité en fait par mes outils. Et je développe d'autres outils quand je sens pataugé en fait. Et la recherche m'a énormément aidé de comprendre mieux le travail de bande dessinée, de comprendre mieux peut-être ou de formaliser mieux, d'articuler mieux mes intuitions.
Trouver quelques réponses finalement.
Trouver quelques réponses, se poser d'autres questions aussi, parce que des fois j'ai l'impression qu'on manque de questions. La bande dessinée a toujours été un objet un peu trop transparent, trop limpide. On n'a jamais permis à ce média de devenir un peu une boîte noire. Et je crois qu'il faut lui donner la possibilité de pouvoir aussi obfusquer ou de cacher ou de ne pas révéler tout de suite ses opérations, ses fonctionnements. Et voilà.
Merci, merci pour cette réponse. Alors, à chaque fin d'interview, il y a une petite tradition à la radio du cinéma. Je sais que vous êtes un grand consommateur de films, hein, et donc je vais vous demander, s'il vous plaît, de me donner votre film préféré, votre musique de film préférée, et puis votre réplique préférée. Chère Hélène, vous avez une scène devant vous, il y a trois petites marches. La scène vous appartient, c'est à vous de jouer.
Meilleur film, Le Rayon Vert de Rick Remer.
Pour quelle raison?
Ah, j'adore. Il n'y a pas de message particulier, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a un sentiment de légèreté dans ce film qui est tellement fort que c'est très dur de revivre quelque chose de pareil. Avec une attente constante de l'actrice, c'est de voir ce rayon vert, en fait. Hein. Donc,
Ça répond un peu finalement à vos réflexions personnelles. Il y a une quête. Et cette quête, finalement, vous la vivez aussi au quotidien.
Ouais.
Donc c'est peut-être une sorte de mimétisme cinématographique, finalement.
Tout à fait, oui.
Tu rêves toujours, t'attends toujours, et vaut mieux attendre quelque chose que la réalité, tu vois, gâche les espoirs.
Meilleure musique,
oui, voilà.
L'Estance à Sophie, de Art Ensemble of Chicago. Donc Art Ensemble of Chicago, c'est un groupe très important du free jazz américain. Ils ont déménagé à Paris, en fait, parce que, voilà, aux États-Unis, c'était assez difficile de faire ce qu'ils voulaient faire. Et pour moi, c'est un monde idéal entre un super film, une super musique qui a pu, en fait, cadrer à une narration cinématographique. Il y a rarement, en fait, ce genre de coproduction. Et meilleure réplique, Le Rayon Vert, je ne vais pas partir en vacances toute seule.
Ah bon. Eh bien, écoutez, nous non plus, on ne va pas partir en vacances tout seul. On va partir en écoutant les podcasts de la radio du cinéma et notamment celui d'Ilan Manouache, qui donc expose à la galerie Huberti et Brenne jusqu'au 21 mars prochain. La galerie se trouve donc au 36 avenue Matignon à Paris. Merci infiniment, cher Ilan.
Merci beaucoup.
Enfin, pour l'instant, je pars avec personne.
Bah, tu vas bien trouver quelqu'un quand même.
Pourquoi tu ne pars pas toute seule?
Parce que ça me branche pas.
Mais c'est merveilleux de partir toute seule.
Je trouve ça inhumain.
Je te dis que c'est comme ça qu'on fait des rencontres.
Bah, moi, j'ai rencontré personne.